France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei. Bienvenue à Antoinette Benoît qui nous rejoint en stage et un salut chaleureux à Christine Anger. On est content aussi de retrouver Vivian Lecuivre à la réalisation et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. C'est une ville d'embouteillages, d'autoroutes urbaines et de rêves pavillonnaires. Los Angeles sait aujourd'hui combien son modèle urbain est vulnérable face à tous les risques climatiques. Les villes sont en première ligne. Nous parlerons aussi cette semaine de celles exposées aux inondations en Europe, des capitales à sec en Amérique latine et en Asie, des villes côtières face à la montée des eaux. Pour commencer donc à Los Angeles, le retour de flamme.
Ça n'a aucun sens, vous avez bien vu. Toutes les maisons dans toutes les directions ont disparu. Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça. Les magasins, les restaurants ont brûlé, les écoles aussi. Comment on va envoyer nos enfants à l'école? Ça va prendre du temps à la ville pour se relever si elle y arrive.
Nous connaissions tout le monde ici. Et tout le monde a été touché par les incendies. Ce n'est pas que nous. Tout le monde a été frappé. C'est tellement affreux.
Je pensais qu'il y aurait plus de canadairs qui voleraient. C'est pas possible qu'il n'y en ait que un ou deux. En Californie, il n'y en a pas 20 ou 30 qui devraient déjà être là ?
Faut-il laisser brûler Los Angeles ? Cette question cynique, c'est le géographe Mike Davis qui la posait dans un texte paru en 1983. Il est cité par la revue Philomag. Il y a déjà plus de 40 ans, donc, Mike Davis pointait l'inconséquence de ceux qui font construire dans des zones à risque, les riches pyrophiles, comme il les appelait. Lorsqu'on achète une maison, écrivait-il, on évalue soigneusement le voisinage. Eh bien, à Malibu, le voisinage, c'est le feu. Après 3 semaines de lutte contre les flammes et une trentaine de morts, les pompiers ont déclaré vendredi seulement avoir éteint tous les incendies. Plus de 150 km² sont ravagés, en particulier dans les quartiers d'Eaton au nord et de Pacific Palisades, où la quête de terrain avec vue sur l'océan a contribué à l'étalement urbain et décuplé les risques. D'autant plus qu'en souffle le vent de Santa Ana sec et chaud et ses bourrasques de 140 km/h qui rendent le feu incontrôlable. Alors on ne saura peut-être jamais quelle étincelle a provoqué la catastrophe, sans doute un feu d'artifice tiré pour le nouvel an, suivi d'un feu de broussailles que les pompiers croyaient avoir éteint. Il n'empêche, Los Angeles est particulièrement vulnérable avec ses maisons qui jouxtent les forêts. Cette utopie de la proximité avec la nature qui a contribué à faire de Mulholland Drive la scène bien réelle d'un film catastrophe. Bonjour Cynthia Gora-Gobin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, directrice de recherche émérite au CNRS et membre du CREDA IHEAL. C'est le centre de recherche et documentation sur les Amériques de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous aviez écrit il y a déjà plusieurs années Los Angeles, le mythe américain inachevé, paru aux éditions du CNRS, car ça fait très longtemps, Cynthia Gora-Gobin, que vous étudiez cette ville de Los Angeles. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous l'avez vue grandir et s'étaler, mais vous l'avez observée ce faisant. Et là, ces dernières semaines, vous l'avez plutôt observée se détruire à petit feu. C'est le cas de le dire, Cynthia Gora-Gobin. Comment vous avez observé, loin de cette ville que vous connaissez par cœur, ces feux, à la fois ces foyers d'incendie, se réveiller ici et là et puis s'éteindre au fur et à mesure?
Ah oui, c'était la télévision nous a transmis des images incroyables de cet incendie. Et il est vrai que, enfin, pour moi, si vous voulez, il ne faut pas oublier que Pacific Palisades est d'une certaine manière Altadena, donc où il y a eu le feu Eaton, l'incendie Eaton, comme vous le disiez, sont des cadres de vie extraordinaires. Je veux dire, c'est féerique, certains diraient magique. Vous vous rendez compte, vivre dans une maison, une belle maison, c'est pas à Pacific Palisades, c'est vraiment de très belles maisons
dans la
forêt. Ah oui, c'est à partir de 10 millions de dollars, hein, jusqu'à 100 millions. Avec bien entendu piscine, mais ça c'est banal, la piscine à Los Angeles. Mais c'était avec vue sur l'océan, mais c'était extraordinaire. Et là, vous réalisez que tout compte fait, pas uniquement le mode de vie, c'est plus le cadre de vie. Vous vous rendez compte, un cadre de vie urbain, c'est-à-dire qu'on est à 1 heure de l'aéroport international de Los Angeles et à 1 heure aussi du centre-ville. Enfin, c'est extraordinaire comme cadre et voilà que ce cadre va disparaître. Mais rappelons que quand même, c'est une population très riche qui habitait, sauf à Altadena, c'est un tout petit peu différent.
Même si les populations du centre-ville, beaucoup moins aisées, ont elles aussi subi les conséquences des incendies avec les fumées toxiques. On va avoir l'occasion d'en parler avec vous. Bonjour Charlotte Ruggeri.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante chercheuse en géographie, professeure au lycée Chaptal à Paris. Vous avez coécrit l'Atlas des villes mondiales paru aux éditions Autrement en 2020. Et vous travaillez depuis longtemps, vous aussi, sur la métropolisation de Los Angeles. Peut-être aussi cette même question qu'à Cynthia Gora-Gobin. Vous avez aussi suivi les incendies dans une ville que vous connaissez par cœur et dont vous avez vu s'éteindre très progressivement, très lentement les foyers là jusqu'à ces derniers jours.
Oui, c'est vrai qu'on a un attachement à notre terrain. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur Los Angeles et quand on voit des lieux qu'on aime, qu'on trouve beaux, effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Los Angeles, mais moi, je trouve que c'est une ville magnifique. Ça brise un petit peu le cœur, en fait, de la voir comme ça partir en partie en fumée pendant des semaines, en fait.
Des semaines avec des pompiers qui luttent contre les flammes, avec le peu de moyens qu'ils ont, en tout cas des moyens limités par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Alors, vous qui travaillez sur la métropole de Los Angeles, Charlotte Ruggeri, de quoi parle-t-on quand on évoque la métropolisation d'une ville qui a été pensée et organisée à l'origine comme un contre-modèle des grandes métropoles de l'Est ?
Los Angeles, c'est un petit peu ce que disait Cynthia Gora-Gobin. Effectivement, c'est une ville qui est un peu pensée sur un site qui semble idéal entre l'océan, la montagne, avec le soleil toute l'année, il fait beau et chaud. Mais c'est effectivement une ville qui se construit progressivement avec ses éléments et un petit peu contre eux, en fait. Et donc, vous avez une ville qui naît au 19e, enfin, dès le 18e, en fait, mais qui prend vraiment une ampleur au 19e et qui devient une mégapole, hein, c'est-à-dire une ville géante, en fait, à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, et qui concentre des populations très nombreuses, des réseaux de transport aussi très étendus, mais surtout dominés par la voiture, je pense qu'on en reparlera. Et tout ceci concentre en fait des populations, des activités qui la rendent profondément vulnérable parce que même si le site a l'air merveilleux, il est aussi profondément dangereux et vulnérable.
En fait. Cynthia Gora-Gobin, il y avait quoi avant ? C'est-à-dire avant que Los Angeles devienne cette immense ville très étendue, qu'est-ce qu'il y avait ? Le centre névralgique, c'est peut-être cette gare routière ou gare tout simplement ferroviaire de Los Angeles. Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on en fasse cette grande ville ?
Alors justement, c'est intéressant, l'emplacement de cette gare routière correspond plus ou moins à l'emplacement du pueblo que les Espagnols ont implanté dans cette partie de la Californie. Donc ça, c'est intéressant. Et cette partie, au niveau de la gare routière et tous les quartiers qui se trouvent au sud, donc les quartiers populaires et racisés, n'ont pas été concernés par le feu. Donc c'est important, même si aujourd'hui, ils vont payer le prix de cet air toxique. Mais c'est pour tous les habitants, c'est valable pour tous les habitants de Los Angeles. Donc c'était un pueblo.
Qu'est-ce que c'est un pueblo, pardon ?
Bah écoutez, un pueblo, c'est un établissement humain qui n'est pas vraiment urbain, mais qui est plutôt agricole, qui a une vocation agricole, parce qu'il fallait nourrir pratiquement les présidios. Les présidios, c'était les villes importantes, situées comme San Francisco, c'est un présidio, c'est-à-dire des villes où se trouvait l'autorité politique. Là, il fallait pratiquement, alimenter, je dirais, ces habitants. Donc, pueblo, petite ville mexicaine au bord, je dirais, de la frontière. Et puis, elle devient, après la guerre avec le Mexique, donc elle devient petite ville située à la frontière des États-Unis.
et qui n'est rattachée administrativement aux États-Unis que tardivement vers 1850, avec cette activité agricole très importante. On se rappelle dans les raisins de la colère, on y cultive ou on y ramasse les oranges à foison. Il y en a tellement d'ailleurs qu'il faut.
Mais très rapidement, elle va s'urbaniser.
Très rapidement. Alors comment, très selon rapidement. Quel modèle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle prend modèle sur d'autres villes américaines pour se construire?
C'est l'originalité de l'histoire du peuplement de la ville qui est vraiment intéressant. Donc, au moment où elle est petite ville états-unienne, c'est pratiquement, je dirais, habité par des Californios. Est-ce que c'est un métissage entre les Espagnols et les indigènes? Parce que les premiers habitants, ce sont les indigènes. Donc, ça, c'est extrêmement important. Mais très rapidement, une fois que Los Angeles va être raccordée au réseau de trains, elle va pratiquement accueillir des populations qui justement sont en quête d'un cadre de vie différent, des populations éduquées. C'est pas rien à voir avec les flux migratoires qui arrivent sur les villes de la côte Est ou notamment à Chicago.
Ce sont des Européens qui fuient la misère pour beaucoup.
Voilà. Alors que là, ce sont pratiquement des Américains qui viennent de l'Est, des villes de l'Est ou du Midwest aussi. Vous en avez pas mal qui viennent du Midwest. Et là, ils viennent avec, je dirais, un imaginaire très fort. Donc, qui est celui du mythe américain, qui est pratiquement, je dirais, qui se met en place au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire vivre dans une maison individuelle, entourée d'un jardin, et si possible, à proximité de la nature sauvage.
Ce
parce
mythe.
Que la nature, voilà, n'oublions pas l'influence des transcendantalistes, pratiquement ces philosophes qui, au 19e siècle, on prônait pratiquement la spécificité des États-Unis, c'est-à-dire cette nature sauvage, qu'il faut sauvegarder aussi, puisque c'est comme ça qu'on a les parcs.
Alors, avec ce mythe fondateur de la dédensification à l'origine donc de Los Angeles, Charlotte Ruggieri, Cynthia Gora-Gobin citait les lignes de chemin de fer comme l'entrée à grande vitesse, si je puis dire, dans l'urbanisation de Los Angeles. Il se trouve que vous avez particulièrement étudié les lignes de chemin de fer et notamment cette entreprise, l'Union Pacific, qui a joué un rôle dans l'urbanisation de Los Angeles. Comment ?
En fait, alors il n'y a pas que l'Union Pacific, il y a eu jusqu'à une trentaine de compagnies ferroviaires à Los Angeles au 19e. En fait, le rôle des compagnies ferroviaires est primordial parce que ça explique justement cette urbanisation et cet étalement progressif. Parce qu'en fait, les autorités municipales de Los Angeles concédaient des terrains à des compagnies ferroviaires qui, du coup, possédaient les terrains à côté des voies, parce que la ville n'avait pas les moyens de construire le réseau ferroviaire. Et donc, les compagnies ferroviaires construisaient les lignes de train, faisaient circuler les trains et lotissaient, en fait, les terrains, donc construisaient des maisons. Pour certaines d'entre elles, elles avaient aussi le rôle de compagnies d'eau, par exemple. Donc, elles fournissaient un petit peu des villes tout en un, si vous voulez. Certaines pouvaient aussi s'occuper de l'approvisionnement de l'électricité, par exemple. Et donc, progressivement, le réseau ferroviaire s'étend, la ville s'étend, le bâti s'étend.
Mais avec des compagnies, en plus, qui en profitent, puisqu'elles rachètent elles revendent plutôt une fois que les terrains ont pris de la valeur avec l'installation de la ligne de chemin de fer, elles bâtissent et elles revendent.
C'est ça, beaucoup plus cher. Bon, certaines font faillite, c'est des jeux économiques compliqués. Et au bout d'un moment, bon, il y en a une qui devient dominante, la Pacific Electric Railway Company. Mais ce qui est important, effectivement, parce qu'on n'a pas du tout cette image-là de Los Angeles, c'est qu'au début du XXe siècle, Los Angeles est la ville qui a le plus long réseau ferroviaire des États-Unis, en fait. Et ça, on l'oublie, en fait, mais c'est son histoire à la ville.
Est-ce que ça a changé quelque chose, là, avec les incendies? Est-ce que le fait, à la fois, que la ville soit beaucoup construite sur des lignes de chemin de fer, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de stations de métro, est-ce que tout ça a été un facteur qui a démultiplié, décuplé les risques?
En fait, c'est surtout que les quartiers ou les communes qui ont été touchées, là, si on prend en tout cas les incendies de janvier, mais ça concerne d'autres incendies, ne sont pas obligatoirement desservis par les lignes de chemin de fer et par des gares. Et donc, pour évacuer la population, parce que à partir des années 50-60, le mode de transport qui prend le relais pour étendre la ville, c'est la voiture, en fait. Et c'est là où la ville continue à s'étendre encore énormément, sur d'autres comtés que le comté de Los Angeles, notamment. Et là, effectivement, on l'a vu avec l'évacuation des populations qui s'est faite en voiture, et où très vite, les embouteillages sont arrivés, où des gens ont même dû abandonner leur voiture pour finir à pied, en fait.
J'ai laissé ma voiture. On m'a dit de la laisser car il y a beaucoup de feu ici. Tout le monde a laissé sa voiture.
Je n'ai jamais rien vu de tel, des incendies aussi proches des voitures. Les gens ont laissé leurs véhicules sur Palisade Drive, alors que tout brûle à flanc de colline, les palmiers, tout disparaît. Les pompiers sont formidables, mais ils semblent dépassés.
Elles étaient tellement impressionnantes, Cynthia Gora-Gobin, ces images de files de voitures laissées là sur la route par leurs passagers qui ont préféré fuir à pied et qui ont rendu impossible la circulation et le travail des pompiers ainsi que l'évacuation des habitants. Est-ce qu'il y a déjà, d'ores et déjà, dans ces images-là, le début d'une piste d'explication de ce qui s'est passé et d'une faille, en l'occurrence les failles sont nombreuses en dessous de Los Angeles, mais là d'une faille dans l'organisation de la ville?
Oui, probablement. Mais si vous voulez, pour comprendre, en fin de compte, la rapide conversion, la diffusion de la voiture à Los Angeles, il faut remonter aux années 1920. Parce que dans la culture politique américaine, les grandes décisions, les décisions notamment qui concernent les investissements, se font par référendum. Donc nous avons en 1920 des référendums posant la question suivante. Est-ce que vous voulez faire des transports en commun un service public? Parce que déjà, l'eau et l'électricité, c'était public, c'est municipalisé. Est-ce que vous voulez qu'on modernise? Eh bien, les médias ont joué un rôle extrêmement important. C'est pour vous montrer un petit peu la cohésion sociale au sujet, je dirais, de ce mythe de la maison individuelle. Eh bien, les médias, le Los Angeles Times a rédigé des articles mettant en évidence les rapports des spécialistes, des experts, qui ont pratiquement, je dirais, conseillé la ville, le conseil municipal. Eh bien, ces rapports disaient, si vous voulez moderniser les transports en commun, il n'y a qu'une seule, et je dirais mettre à jour, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est pratiquement d'acquérir des terrains et de passer progressivement à une densification du tissu urbain. Ce qui veut dire disparition dans le temps de la maison individuelle et du jardin. Et les habitants ont dit non. Ce qui s'est produit du coup, c'est que pendant 30 ans, aucun investissement n'a concerné les transports en commun qui se sont dégradés pendant 3 décennies. C'est extrêmement important de savoir qu'il y a eu dégradation parce que les habitants ont dit non lors d'un référendum. Mmh. Et après, on voit bien entendu les entreprises venues de Détroit, etc., qui ont rapidement diffusé la voiture. Ça, c'était pas difficile parce que les habitants ont pratiquement les moyens. Deuxièmement, les conditions climatiques sont favorables à la voiture parce que la voiture n'aime pas le froid. Donc, New York a eu beaucoup plus tard, je dirais, une diffusion assez importante. Et troisièmement, ils ont la place pour la garer dans leur jardin. Ce que les habitants des villes denses n'ont pas.
Charlotte Ruggieri, c'est vrai qu'on peut difficilement reprocher à des habitants de Los Angeles, avant même que tous ces grands incendies ne surviennent et se fassent de plus en plus réguliers, on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir anticipés. Néanmoins, plusieurs décisions ont été prises dans les décennies qui précèdent, qui semblent être autant de facteurs d'explication et d'exposition de Los Angeles à de nombreux risques. Je parlais tout à l'heure des failles, c'était une référence à la faille de San Andreas sur laquelle est construite Los Angeles. Est-ce que tous les habitants qui se sont installés progressivement, qui pour certains sont venus de la côte est pour s'installer sur cette côte ouest, ont conscience qu'ils s'installent sur cette faille de San Andreas? Est-ce que c'est ne serait-ce que visible aussi dans le paysage et rappelé sans cesse?
Alors oui, quand on va en Californie, qu'on s'y installe, on sait qu'on est quand même dans un espace à risque. C'est un petit peu difficile de l'ignorer. Mais ce qui est important à distinguer, je trouve, c'est l'aléa exceptionnel et l'aléa quotidien. Il y a effectivement, moi je trouve une petite il y a tout un mythe autour du Big One, de ce grand séisme qui donc a détruit San Francisco au début du XXe siècle et qui devrait de nouveau arriver, avec vraiment une culture du risque autour des séismes, autour des tsunamis, notamment dans la ville. Donc vous êtes toujours un peu informé de ça. Il y a des séismes tous les jours, hein, de toute façon, en Californie. Et c'est vrai qu'après, vous avez un petit peu les aléas du quotidien, les incendies, les inondations, la sécheresse. Mais c'est pas propre à la Californie, mais dont on parle moins, alors que eux sont beaucoup plus fréquents, en fait. Enfin, les risques, les catastrophes sont beaucoup plus fréquentes. Et où les réglementations la prévention des populations s'est faite plus tardivement, notamment sur les réglementations d'urbanisme pour les maisons. Le fait que les maisons soient en bois, c'est lié justement à une meilleure résistance pour les séismes.
Oui, c'est contre-intuitif, voilà. Mais les maisons en bois résistent davantage aux séismes, en revanche, pas aux incendies. Sauf si elles sont inifugées. D'ailleurs, dans le quartier des Palisades, on a vu certaines maisons, alors très peu, mais qui avaient été vraiment épargnées totalement,
Il y a des techniques effectivement qui permettent de limiter, et aussi des réglementations depuis 2009. Et les maisons les plus récentes, normalement, notamment les toitures, doivent être respecter certaines, enfin utiliser certains matériaux. Il ne doit plus y avoir de barrières de maisons en bois, ce genre de choses, des distances entre les maisons. Et en fait, si on regarde les chiffres, si on prend Pacific Palisades, sur à peu près 47 000 maisons, il n'y en a que 1000 qui ont été construites après, en fait, 2009, donc qui sont avec ces normes-là.
Et qui réellement ont été épargnées ?
Alors, faudrait regarder en détail. Mais qui possiblement peuvent l'être.
Alors, être inifugé, c'est une chose, enfin, avoir sa maison inifugée. L'autre chose, c'est de faire attention, très attention à sa végétation. Peut-être en quelques mots là-dessus, Cynthia Gora-Gobin, la végétation qui entoure les maisons les plus éloignées de la ville, est-ce qu'elle a changé au cours du temps avec le réchauffement climatique ou avec les modes aussi de certains qui plantent certaines espèces parce que c'est plus joli et parce que tout le monde en veut et qui, en fait, exposent davantage les habitations aux incendies?
Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que, les collègues à Los Angeles parlent souvent de l'eucalyptus et du palmier, qui ne sont pas des espèces, qui ont été importées. Voilà le mot, qui ont été importées. Donc il y a ce point de vue. Mais disons que l'État californien, a demandé il y a quelques années aux habitants de faire en sorte qu'il n'y ait plus de végétation autour de leur maison. Mais, si vous voulez, cette directive n'a pas été vraiment écoutée par les habitants. Alors, ce qui explique par exemple aussi les quartiers populaires. Les quartiers populaires n'ont pas de jardin équivalent à ce qu'on voyait dans ces quartiers riches. C'est aussi important. Il n'y a pas d'arbres comme on en trouve dans ces quartiers riches aussi. Donc, c'est beaucoup plus pauvre. Mais aussi, il faut rappeler quand même que l'État californien a pris conscience de ces risques aussi, puisque, en fait, on demande aux habitants de modifier les plantations sur leur jardin. C'est-à-dire d'avoir des plantes beaucoup plus résistantes, de ne plus avoir recours au gazon, ou la pelouse. Mais pourquoi? Parce que là, il y a un autre risque qui a été pris en compte par l'État californien et la municipalité de Los Angeles, c'est le manque d'eau. Donc, on demande, parce que la pelouse, ça demande de l'eau, et on demande donc aux habitants de réduire leur consommation d'eau. Donc, c'est intéressant de savoir que ces risques sont pris en compte par l'État californien.
Parce qu'il y a de moins en moins d'eau. On parle à Los Angeles d'une dette hydrique importante. Charlotte Ruggeri, est-ce que la ville manquait déjà d'eau quand elle a été construite? Est-ce que c'est un problème structurel depuis le début?
Ah ben, oui, mais c'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que c'est un site qui semble idéal, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Notamment, effectivement, on est quand même dans un climat méditerranéen où l'eau manque. Il y a très peu de précipitations pendant les mois printaniers estivaux. Depuis sa création, Los Angeles construit des réservoirs, des aqueducs pour aller récupérer de l'eau et pour apporter de l'eau à la ville.
Parfois à plus de 1500 km de là, d'ailleurs.
Dans le Colorado, il faut aller la chercher très très loin. Et c'est pour ça que l'eau, c'est aussi un enjeu de bataille politique à Los Angeles depuis des décennies, en fait. Qui gère l'eau? Qui commercialise l'eau entre certains systèmes municipalisés, d'autres qui ne le sont pas? Et donc, tout de suite, on a accusé notamment le fait que certains réservoirs étaient vides, ce qui finalement, après coup, semble pas avoir été le cas, mais c'est plutôt des problèmes aussi d'entretien, des canalisations, des systèmes d'eau, où en fait la pression n'a pas été suffisante pour fournir assez d'eau aux pompiers, en fait.
Parce qu'ils se fournissent où ? Est-ce qu'ils vont puiser directement dans cette rivière qui serpente dans la ville, la LA River ?
La LA River.
Ouais.
Oui, mais pas que, parce qu'il y a plus beaucoup d'eau dans la LA River, et puis elle a été fortement, justement, artificialisée. Ça, c'est un problème de l'urbanisation. Oui. C'est qu'on bétonise des cours d'eau, on les artificialise, donc on ne les laisse pas s'exprimer librement, en fait. Et donc, il n'y a plus assez d'eau au bout d'un moment, ça manque. Vous avez vraiment des grandes portions de la LA River, c'est du béton, hein, en fait. Ça pose aussi problème. Et après, effectivement, non, sinon, c'est des grands réservoirs, en fait, qui existent un peu partout. Faut entretenir un réseau, faut le financer. Et là, c'est des années aussi de manque d'entretien, de sous-investissement qui se payent en fait au moment d'une catastrophe.
Des sous-investissements dans les canalisations et les réseaux d'eau, des sous-investissements aussi chez les pompiers.
There's a $17 million cut in our budget, operating costs.
Quand votre budget est amputé de 17 millions de dollars, vous devez prendre des décisions difficiles. J'ai dû regarder l'ensemble des activités et des responsabilités que nous assumons au sein de notre service. Et j'ai concentré les moyens qui nous restaient sur l'entraînement des pompiers, sur le combat contre les incendies et sur les services d'urgence. Face à ces méga-feux, nous avons déployé en amont autant d'effectifs et de moyens que nous le pouvions. Puis, quand les incendies ont progressé, nous avons concentré nos efforts sur ces départs de feu. C'est tout ce que nous pouvions faire au vu des moyens dont nous disposons.
La directrice du service des pompiers municipaux, Christine Crowley, qui déplore donc ces coupes budgétaires imposées à son service, Cynthia Gora-Gobin, depuis le temps que vous travaillez sur cette ville de Los Angeles, vous en avez vu des incendies détruire des parcelles, alors plus ou moins grandes selon les années, mais depuis, je ne sais pas, alors vous n'avez pas connu celui de 33 ou celui de Malibu en 56, mais les incendies à Bel Air, à Brentwood, même beaucoup plus tard, l'incendie ravageur de 91 qui avait détruit 3000 maisons à l'est de la baie de San Francisco cette fois, mais aussi dans les montagnes de San Gabriel au nord de la ville en 2009, en 2018, etc. Est-ce qu'à chaque fois les pompiers ont dit manquer de moyens ou c'est vraiment au fil des années que leur budget s'est réduit, s'est tari ?
Alors, le budget, c'est tari, mais il faut aussi tenir compte, si vous voulez, de l'influence de l'État fédéral aussi. Alors, moi, je me rappelle, j'ai débarqué en Californie, plus exactement à Los Angeles, en 1978. Je ne connaissais pas grand-chose, c'était mon premier séjour, je débarquais à Los Angeles, j'avais été acceptée à UCLA pour faire un PhD, et ce que me racontent les habitants tout de suite, avec certains, une certaine fierté, d'autres plus déçus, que les Californiens avaient voté, dans le cadre d'un référendum à leur initiative, c'était pas l'initiative du gouverneur et de la branche législative, et en fait, ils ont voté pour une réduction des taxes locales. Donc, à partir de ce moment-là, les budgets au niveau de l'État, au niveau des municipalités, ont chuté. Et il faut aussi savoir que la taxe la plus importante dans les municipalités aux États-Unis, c'est la taxe foncière. Donc ça, c'est aussi important et c'est un enjeu considérable pour la reconstruction. Parce qu'aujourd'hui, la municipalité, est-ce que les habitants dont la maison a disparu vont-ils payer la taxe foncière ? Point d'interrogation. Si vous voulez, il y a... Ensuite, il y a le débat aussi, selon quel modèle va-t-on reconstruire la ville ? Parce qu'il faut savoir, quand on construit avec des matériaux adéquats pour lutter contre le feu, c'est beaucoup plus cher. Est-ce que les habitants dont la maison a disparu vont le faire ? Que va dire, bien entendu, il y a les assurances dans les assurances, mais il faut savoir là aussi sur les assurances qu'en 1988, les Californiens ont, dans le cadre d'un référendum, exigé la baisse, pratiquement, des montants payés aux assurances. Certaines assurances ont quitté la Californie. Donc, aujourd'hui, on n'est pas certain qu'en fin de compte, toutes les maisons
et des assurances.
Et oui, les compagnies d'assurance privée ont quitté la Californie, mais même encore tout récemment, l'année dernière, le State Farm, c'est ça, l'un des principaux assureurs états-uniens, qui a annoncé qu'il résiliait l'assurance habitation de 30 000 propriétaires de maisons en Californie, dont un millier dans le quartier de Palisades.
Tout à fait, parce que la zone avait été déclarée, si vous voulez, vulnérable. Elle avait été déclarée par les spécialistes.
Et donc ils disent, il y a plus en plus de personnes qui s'installent dans des zones sujettes aux incendies, on ne peut pas assurer tout le monde, on part, et vraiment les assurances ont été résiliées, ce que dénoncent aujourd'hui certaines personnes qui ont tout perdu dans les incendies.
Tout à fait. I'm angry because
people like Bill Riley. Je suis en colère parce que des gens comme Bill Riley disent que les criminels se propagent dans les rues, mais les vrais criminels sont les compagnies d'assurance, qui ne se sont occupées de personne dans notre quartier et qui n'ont pas l'habitude de s'occuper des gens de cette manière. They do not have a history of taking care of people in that way. Insurance companies. Les demandes d'indemnisation des compagnies d'assurance sont systématiquement rejetées. Vous pouvez essayer le tribunal populaire pour demander des comptes aux compagnies d'assurance, mais elles se sont retirées de l'État et nous ont abandonnés. Nous sommes laissés pour compte. C'est déchirant. It's
heartbreaking. Charlotte Ruggieri, est-ce qu'on a une idée à la fois de combien de personnes se sont retrouvées sans assurance concernées aujourd'hui par les destructions de leur maison, et surtout si ça ne concerne que ces riches propriétaires de villas avec vue sur le Pacifique?
Alors, sur les assurances, ce qui est intéressant, c'est que la Californie s'est dotée d'une assurance, en fait, de l'État.
Publique.
Publique, voilà, pour justement ces personnes qui ne peuvent plus être assurées par des compagnies d'assurance privées. Donc, cette assurance qui s'appelle FAIR, F-A-I-R, par exemple, en termes de chiffres, en 2024, il y a 450 000 personnes, enfin biens, qui ont été assurés, ce qui est déjà plus du double par rapport à 2020. Et rien que là, au mois de janvier, il y a eu 4 400 demandes en fait d'assurance auprès de ce système public. De personnes, effectivement, notamment à Palisades, mais pas que, qui ne sont plus assurées. Ce système public est quand même offre une couverture généralement un peu plus faible que ce qu'offrirait une assurance privée, pour souvent des prix un peu plus élevés. Donc c'est pas non plus pas parce que c'est public que c'est accessible à tout le monde. En fait, c'est juste une assurance publique qui se substitue à des assurances privées qui ne veulent pas jouer leur rôle. Mais ce n'est pas une assurance qui va permettre de couvrir les personnes les plus précaires.
Et ça touche, en revanche, ça coûte très cher à tous les contribuables.
Ça coûte très cher à tous les contribuables. Pour Palisades, par exemple, cette assurance publique, si on va sur leur site, estime que les coûts pourraient s'élever à 5 milliards de dollars en cas d'incendie, ce qui va donc arriver là, en l'occurrence, en fait.
Juste un petit mot, parce qu'on parlait des pompiers, je ne vous ai pas posé la question, Charlotte Ruggieri, entre autres, toutes les voix de colère qui se sont élevées depuis le début de ces incendies, il y a aussi tous ceux qui disent, et c'est le cas d'Elon Musk, et on sait aujourd'hui combien il est influent sur son propre réseau social, et ses propos ont été repris, y compris par des élus français, ici en France, de dire, regardez, les services des pompiers, de toute façon, ça faisait longtemps que les budgets étaient redirigés vers des actions en faveur de la diversité, pour accueillir des Afro-Américains ou des LGBT. Comment les autorités locales ont fait en sorte de débunker, entre guillemets, tout ce qui relève, on le sait aujourd'hui, de fausses informations? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment eu des... on voit comment ça va vite aujourd'hui, presque aussi vite que ces foyers d'incendie qui se propagent de l'un à l'autre, toutes les fausses informations, est-ce qu'il y a eu une volonté de la part des autorités de, les unes après les autres, démentir tout ce que les réseaux sociaux ont fait circuler de fausses informations?
Oui, oui, parce que notamment... Alors, ces incendies s'inscrivent aussi dans un conflit politique de longue date. La Californie, c'est une terre démocrate, en tout cas les grandes villes. Le centre de la Californie vote plutôt républicain. C'est identifié depuis la présidence Trump un peu comme... C'est un ennemi pour Trump, la Californie. Et l'actuel gouverneur, Gavin Newsom, qui a des ambitions présidentielles dont il ne se cache pas vraiment, se pose véritablement, effectivement, en opposant à Trump et à Musk.
Peut-être en futur candidat, on ne sait pas.
Voilà, c'est ça.
Démocrate.
Et donc, c'est bien pour ça qu'il, notamment, il est allé accueillir Trump à son arrivée à Los Angeles la semaine dernière pour éviter, en fait, que Trump accuse tout de suite les acteurs publics de ne pas faire leur travail. Après, en effet, c'est au-delà d'un jeu politique qui... voilà, c'est les incendies ou autre chose, hein, les thèmes changeront. On l'a bien vu avec le crash aussi à Washington, où pareil, les programmes de diversité ont aussi été accusés sans aucune preuve. La Californie, c'est tout un modèle, en fait, d'inclusion. D'inclusion sur la population migrante, par exemple. Il y a des, c'est des villes sanctuaires aussi pour les migrants. D'inclusion aussi sur les personnes LGBT, sur les personnes racisées, qui est à 10 000 lieues de ce que prône l'administration Trump, de toute façon.
Cynthia Gora-Gobin, c'est vrai que son nez sur les cendres, pas du tout éteintes encore de ces incendies, des débats politiques dont les habitants de Los Angeles se seraient bien passés, avec aussi cette bataille politique entre Donald Trump et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Trump ayant toujours accusé la Californie de truquer les résultats des élections, donc peut-être une juste vengeance. Néanmoins, quand il s'est déplacé, enfin une juste vengeance, une vengeance, mais quand il s'est déplacé, il a vraiment dit, tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas comprendre, mais maintenant que j'ai vu, je vous dis, je vous ouvrirai les caisses, les poches de l'État. Bon, on verra ce qui débloque. En tout cas, la question, c'est de savoir comment Los Angeles, les quartiers détruits, seront reconstruits. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. La maire, Karen Bass, dit qu'il faut s'organiser autour de l'urgence, du bon sens et de la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on commence déjà à l'accuser de vouloir à trop accélérer les choses, ne plus prendre en compte les contraintes environnementales et justement faire en sorte que tout aille beaucoup plus vite.
Oui, c'est vrai que elle a pris un arrêté municipal en disant il faut aller vite, mais il faut savoir que quand Trump est arrivé en Californie, il a été accueilli par le gouverneur, Gavin comme le disait Newsom. Charlotte, mais ensuite, il a organisé une réunion, il y a eu une réunion à la municipalité de Los Angeles avec Karen. Donc, je ne vois pas que les prénoms.
Karen Bass.
Karen Bass,
la mère.
La mère. Et Gavin Newsom ne devait pas participer à cette réunion. Et là, lui aussi, il a dit à Karen Bass, eh bien, il faut aller vite. Et il a dit, j'ai vu ce qui s'est passé. Il n'y a plus rien qui puisse brûler. Donc, on peut aller vite, on peut reconstruire.
À l'identique.
À l'identique, c'est-à-dire la maison individuelle, enfin peut-être pas entourée d'un jardin, parce que justement, ces architectes qui ont déjà travaillé ont bien dit qu'il faut considérer que Los Angeles est un climat semi-désertique, donc pas de végétation à proximité de la maison, enfin, outre bien entendu les matériaux. Alors maintenant, concernant l'aide fédérale, c'est un point d'interrogation, mais les républicains comme les démocrates se souviennent de l'incendie de Malibu, parce que les gens de ma génération se souviennent de l'incendie de Malibu que vous avez cité
en 56.
56, qui a été décrit et très bien étudié par Mike Davis, eh bien, se souviennent qu'à l'époque, le président républicain Eisenhower a tout de suite dit « Vous allez avoir l'aide fédérale dont vous avez besoin ». Et là, Trump, on ne sait pas trop comment tout cela va se dérouler.
Un petit mot encore pour conclure cette première partie, Charlotte Ruggeri, sur la reconstruction. Est-ce qu'il est question de redensifier le centre-ville, de faire en sorte que l'étalement urbain s'amoindrisse, si je peux parler comme ça, justement pour éviter que ne se répètent toujours les mêmes erreurs? Est-ce qu'au moins, malgré toutes les erreurs qui semblent se répéter assez rapidement, comme le disait Cynthia Gora-Gobin, il y a quelques leçons qui ont été tirées et des efforts mis sur une forme de redensification du centre-ville?
Ouais, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, qu'on voit, il y a deux choses. Il y a d'abord une chose qui est que, étant donné le prix des loyers dans le centre de Los Angeles, la construction se fait aujourd'hui surtout en périphérie de l'aire urbaine de Los Angeles. On estime que, par exemple, dans des espaces comme Altadena, qui ont brûlé là avec Litton Fire, on considère que d'ici 2030, la construction devrait et la population devrait augmenter de 30%. Parce que, ce que disait Cynthia tout à l'heure, ça représente des recettes fiscales aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est une première chose, c'est que on construit surtout en périphérie, pour des raisons à la fois financières, et c'est là où il y a de la place aussi. La deuxième chose, c'est que justement, sur les mesures environnementales, ce que Karen Bass et Gavin Newsom là ont dit, c'est que si les maisons reconstruites respectaient les mêmes conditions que ce qu'elles respectaient auparavant, c'est-à-dire la même superficie, le même emplacement, en faisant effectivement attention à la végétation, on pourrait accélérer les procédures pour approuver en fait les reconstructions. Mais ça pose pas la question de où on les construit. Si on autorise la reconstruction au même endroit, on reproduit le même problème.
En fait. Donc des problèmes qui se surajoutent les uns aux autres, la pression démographique avec les risques et contraintes climatiques, c'est le cas aussi à Athènes avec cette fois une municipalité beaucoup plus mise en cause et même un gouvernement mis en cause. On en parle juste après, ça sera notre focus, juste après cette chanson de Lana Del Rey qui parlait des incendies de Californie en 2018.
Beach and I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the beach boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. Nobody wants you before the fall.
The Greatest, cette chanson de Lana Del Rey qui date en fait de 2019, donc un an après les méga-feux de Paradise et de Campfire au nord de Los Angeles. Ces nuits étaient en feu, nous ne savions pas que nous avions tout, mais personne ne vous prévient avant la chute, dit Lana Del Rey. Los Angeles, le retour de flammes, c'est le premier volet d'une série que nous consacrons dans Culture Monde aux villes face aux catastrophes climatiques. Los Angeles avec nos invités Charlotte Ruggieri et Cynthia Gora Gobin et une autre métropole soumise au même contexte climatique et étalement urbain avec des conséquences très similaires. Il s'agit d'Athènes.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Je me sens complètement perdu. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment protéger ma maison, mes proches, ma famille. Ça me bouleverse d'autant plus que je sais que ça peut se répéter et qu'Athènes ne sera jamais à l'abri. Ça arrive tous les 1, 2 ou 3 ans. À chaque fois, c'est la même histoire. Quelque chose doit être fait. On doit empêcher tout ça, vous entendez? Chaque année, c'est la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à brûler ici.
Un habitant de la banlieue d'Athènes bien impuissant en 2009 face aux incendies qui déjà se rapprochaient d'année en année. Bonjour Pauline Villain-Carlotti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie. Vous connaissez très bien la ville d'Athènes et la façon dont elle répond aujourd'hui à ces urgences climatiques. En quoi Athènes ressemble-t-elle à Los Angeles dans sa vulnérabilité face au risque d'incendie?
Alors, Athènes, c'est une ville de Méditerranée avec un climat méditerranéen. Pardon, j'ai un écho.
Ah, vous avez un écho. Eh bien, décidément, on a ce problème de plus en plus. Je vais juste demander à nos invités de mettre un casque. Si vous voulez bien, on va couper le retour dans les haut-parleurs, décidément. Je vous en prie, allez-y.
Oui. Et donc, ce climat méditerranéen, et c'est la même configuration que ce qu'on peut avoir effectivement en Californie, avec ceci près qu'on est en région circumméditerranéenne, et donc pas seulement de climat méditerranéen, mais aussi de culture méditerranéenne. On y reviendra sur la construction de la périurbanisation à Athènes et de ce qu'elle implique en termes de remplacement d'anciens espaces agricoles. La ville d'Athènes, elle s'est urbanisée de manière très brutale après la Seconde Guerre mondiale, donc avec un mouvement d'exode rural massif qui s'est polarisé entre les deux grandes agglomérations que sont Athènes et Thessalonique. Et la périurbanisation des années 80-90, ça a été un retour donc sur les anciens terrains libérés.
Libérés.
Un écho.
Ah, vous avez à nouveau un écho. Ben, normalement, là, ça devrait plus. Je suis désolée si vous pouvez quand même continuer malgré tout.
Oui,
je suis navrée.
Je l'avais plus, je l'ai de nouveau. Désolée. Donc, cette périurbanisation, elle s'accompagne d'un étalement urbain comme ce qu'on peut retrouver donc effectivement dans le cas de Los Angeles. Cet étalement urbain, il vise non seulement à desserrer, on va dire, le tissu urbain d'Athènes et la relocalisation de certaines activités industrielles et logistiques, notamment avec l'aéroport, mais il y a aussi la recherche, on va dire, de résidentiels touristiques ou pérennes et la quête d'espaces, on va dire, moins urbanisés et d'aménités paysagères, donc un retour vers la campagne.
Qu'est-ce qu'il y avait avant sur les terrains aujourd'hui construits en périphérie d'Athènes et où sont construits, par exemple, des hôtels aujourd'hui? C'était de l'activité agricole, hein, c'était essentiellement ça.
Oui, principalement. Donc, on a eu le remplacement d'anciens. La dynamique périurbaine d'Athènes, elle va vers un flux nord-nord-est, donc vers les anciens terrains, sur les anciens terrains agricoles libérés par l'exode rural, et en direction de certains massifs forestiers aussi qui ont été victimes d'incendies récemment, donc Parthinos et Imitos. Mais on a aussi effectivement un autre flux qui est plutôt sur le littoral, donc vers le port du Pirée et la couronne périurbaine, on va dire plus littorale, avec la construction de complexes plus balnéaires, hôteliers, à destination d'un tourisme international, mais aussi de tourisme de week-end pour les habitants de la ville d'Athènes.
Avec donc, on a perdu sur ces terrains-là tous ces éleveurs et agriculteurs qui pendant des siècles se sont chargés de la sécurité incendie, entre guillemets, de la ville, puisqu'ils faisaient des brûlis, ils brûlaient les végétaux secs petit à petit pour exploiter leur terrain. Ce sont des techniques ancestrales que certains pays, on a déjà parlé ici de l'Australie qui compte encore une forte population autochtone, tentent de réactiver, de remettre en place pour faire face aux méga-feux. Est-ce que c'est le cas des politiques publiques grecques et plus généralement, Pauline Villain-Carlotti, est-ce que les politiques pensent le risque d'incendie aujourd'hui en Grèce?
Alors, là, effectivement, les terrains qui sont aujourd'hui périurbanisés, ce sont les anciens terrains agricoles les moins rentables, c'est-à-dire les anciens terrains d'élevage ovin et caprin, qui utilisaient donc la pratique du feu. C'est pour ça qu'on parlait, même pour la Grèce, de pyropaysages, ces paysages entretenus par le feu, où le feu, dans ce système-là, est un outil. Cette pratique-là, avec le déclin des populations pastorales, s'est perdue. Les pare-feux que cela permettait ont disparu et on a une multiplication des interfaces habitat-forêt qui sont très vulnérables aux incendies. Et effectivement, comme vous le disiez, la pratique du brûlage dirigé, qu'on retrouve en Australie, mais pas de manière privilégiée, on va dire que plutôt en Europe méditerranéenne, aussi en Amérique du Nord, sous le nom de Prescribed Fire, et qui s'est étendue, qui est de plus en plus documentée avec des échanges internationaux, de la coopération entre professionnels, on va dire, de l'extinction. Elle s'est professionnalisée, maintenant elle n'est plus traditionnelle et c'est plus une pratique rurale. Elle peine à arriver en Grèce, donc on n'en est qu'à un stade d'étude, on va dire. Il y a un problème d'acceptabilité de cette pratique, notamment. Donc, elle est souvent perçue comme une volonté de mettre le feu et de contribuer à incendier davantage les terrains, alors qu'en fait, elle sert à la prévention du risque en créant des pare-feux et en limitant justement la probabilité d'ignition dans les interfaces habitat-forêt. Donc, cette pratique, elle peine à arriver effectivement en Grèce, alors qu'elle est très développée en Europe méditerranéenne.
Mais plus généralement, pardon, Pauline Villain-Carlotti, puisque le temps file très très vite, est-ce que le gouvernement grec aujourd'hui pense le risque d'incendie comme un problème urbain, c'est-à-dire parce que Athènes est de plus en plus concernée, ou comme un problème forestier qui ne concerne que les forêts et doit être traité comme tel?
Eh bien, j'ai envie de dire que la prise de conscience globale qu'on a actuellement fait qu'on commence à penser ce risque comme étant une problématique d'urbanisme, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on a longtemps considéré que l'incendie de forêt, il concernait la forêt, donc la foresta, ce qui est en dehors de l'espace civilisé et urbanisé. Et aujourd'hui, maintenant qu'il menace de plus en plus les villes, comme Athènes, de manière récurrente tous les ans, avec une augmentation de la létalité qui est un vrai problème de ces dernières années également, et qu'on ne constatait pas dans les époques anciennes, d'après la base de données de l'université de Louvain notamment, sur la sinistralité et la létalité des incendies de forêt, qui est un risque assez peu létal en la matière. Ces changements...
104 morts en 2018, l'incendie de Mati sur la côte est de l'Attique, à une trentaine de kilomètres d'Athènes.
et récemment l'incendie d'Hawaï, même si on n'est plus en Grèce. Donc on a vraiment une augmentation de la létalité qui fait prendre conscience de la nécessité d'organiser les territoires, de faire de la prévention, d'encadrer l'urbanisation par des plans d'urbanisme, ce qui n'est pas le cas à Athènes. Donc on a un phénomène de périurbanisation dont je parlais, qui est en partie autoproduit, non planifié, avec un manque de réflexion globale justement sur la vulnérabilité des territoires. Mais on peut imaginer que cette prise de conscience qui est en train de se faire aura des applications concrètes à l'avenir.
L'été dernier encore, un incendie alimenté par des vents de 80 km/h a parcouru près de 30 km depuis la ville de Marathon jusqu'aux portes d'Athènes. 10 000 hectares détruits. Est-ce qu'on peut replanter, espérer revégétaliser des zones réduites en cendres? Et le cas échéant, avec quelles limites? Comment sont réfléchies maintenant, dès maintenant, là, non pas reconstruction en l'occurrence, mais la revégétalisation?
Alors la revégétalisation, ça peut être une bonne idée à condition de réfléchir en termes d'essence et de revenir à des essences méditerranéennes classiques qui sont souvent xérophiles, donc résistantes à forte chaleur, à la sécheresse, mais aussi parfois pyrophiles. Donc soit elles apprécient le feu pour leur croissance, soit elles sont capables d'y résister, comme par exemple certains les chênes lièges qui, lorsqu'ils ne sont pas démasclés, donc sont protégés. Donc si on a une vraie réflexion pour un retour à une végétation qui est adaptée, donc pas simplement replanter pour replanter, limiter la continuité de combustible, organiser des strates végétalisées de différents niveaux et créer des pare-feux. Donc une réflexion de végétalisation appliquée à des politiques d'urbanisme concrètes, on peut penser effectivement que ça fait partie de la solution, mais il ne suffit pas de replanter pour replanter simplement un patrimoine de biodiversité qui se serait perdu.
Tout comme il ne suffit pas de s'équiper pour lutter contre les feux, et notamment la Grèce a utilisé l'argent du plan de relance européen pour s'équiper en canadair, en caméras infrarouges, etc. Mais l'essentiel est la prévention, bien entendu, plutôt que de lutter contre les flammes. Je vous remercie beaucoup, Pauline Villain-Carlotti, d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Je mentionne juste une étude de l'Université de l'Ouest de l'Attique, qui est un centre de recherche sur les crises sociales et humanitaires, et qui établissait en juillet dernier que 69% des habitants de la région d'Athènes ont déjà fait l'expérience de feux de canicule ou d'inondation, et que 1 sur 10 connaît dans son entourage des personnes mortes lors de ces catastrophes naturelles. Cynthia Gora-Gobin, Charlotte Ruggieri, un petit mot de conclusion sur Los Angeles. Vous vouliez, Cynthia Gora-Gobin, mentionner, on a parlé bien sûr de tous ces riches habitants de Los Angeles qui ont vu leur maison partir en flammes, mais tous ceux qui travaillaient avec eux aujourd'hui ont perdu leur emploi.
Oui, voilà. Alors comme vous le disiez en début de l'émission, en fait, le nombre de victimes est inférieur à 30 personnes. Mais les véritables victimes, outre bien entendu ceux qui se plaignent parce que les assurances ne vont pas leur rembourser, c'est pratiquement le personnel domestique et les jardiniers. Or, toute cette population, la grande majorité d'entre elles ne vit pas sur place. Mais il y a certaines personnes qui vivaient sur place. Et puis, il ne faut pas oublier, ce sont souvent des personnes racisées. Alors, il y a une partie qui est là depuis très longtemps à Los Angeles, donc ce sont des Américains, mais il y a certainement de récents immigrés parmi ce personnel. Donc il faut prendre en compte ces victimes.
Et qui seront pour beaucoup peut-être envoyés d'ailleurs dans leur pays d'origine, comme on le racontait dans Culture Monde vendredi, autour de Mélanie Chalandon et son retour d'eux. Les classes moyennes aussi, toutes celles qui voulaient accéder à la propriété, que ce soit à Athènes ou à Los Angeles, et qui se sont installées loin du centre, ont été concernées par ces incendies. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous, Cynthia Gora-Gobin et Charlotte Ruggieri. Je redonne les références du livre dont vous êtes la co-autrice, L'Atlas des villes mondiales, paru aux éditions Autrement.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et on reste aux États-Unis, Catherine, puisque Donald Trump doit s'entretenir avec les dirigeants canadiens et mexicains aujourd'hui, après avoir imposé 25% de droits de douane aux produits en provenance de ces deux pays.
Ils doivent entrer en vigueur demain, la guerre commerciale aura-t-elle lieu? En tout cas, le champ lexical belliciste se déploie dans les journaux et dans la bouche des politiques canadiens. Le premier ministre québécois, François Legault, invite les habitants de sa province à se battre, rapporte le quotidien Le Devoir, parce que les tarifs douaniers de 25% imposés par les États-Unis constituent, je cite encore, une attaque en règle qui va nous faire mal, a-t-il affirmé hier. On doit bien entendu répliquer, tout en faisant attention de ne pas nous nous blesser nous-mêmes, a ajouté le premier ministre québécois. Il propose, note encore Le Devoir, de pénaliser les entreprises des États-Unis qui font affaire avec le Québec. Cela compléterait la série de contre-tarifs douaniers annoncés ce week-end par le premier ministre canadien Justin Trudeau, 25% sur 150 milliards de dollars de marchandises en provenance des États-Unis, des produits tels que la bière, le vin, le bourbon, des fruits, du jus d'orange, des légumes, des parfums, des vêtements, du papier hygiénique, des shampoings, énumère le journal économique canadien Financial Post et Le Devoir. Des représailles pour montrer les muscles face à la Maison-Blanche, alors que la Banque nationale du Canada craint, elle, un recul de 6% de la croissance nationale, note le Financial Post, si la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada se déclenche réellement demain. Au Québec, par exemple, 500 000 emplois dépendent des exportations vers les États-Unis. La Chambre de commerce d'Ottawa incite désormais à montrer son patriotisme économique en achetant local, titre l'Ottawa Citizen. Les tarifs, ce n'est pas personnel, c'est seulement les affaires, comme disait Michael Corleone dans Le Parrain, avant d'aller assassiner le chef de la police, écrit un chroniqueur dans les colonnes du quotidien La Presse. Si vous trouvez que la métaphore est trop sanglante, dit-il encore, je citerai mon beau-père qui n'a de cesse de répéter aux cartes pas d'amis avant d'essayer de tricher. La presse parle de sentiments de trahison et le risque avec ces tarifs douaniers surélevés, c'est que le consommateur finisse par payer l'addition, souligne Le Devoir.
Personne ne sortira gagnant d'une guerre commerciale, Catherine.
C'est effectivement l'avis du journal québécois Le Devoir et du New York Times. Les tarifs douaniers visent aussi Mexico, mais c'est nous qu'ils frappent en réalité, déplore un éditorialiste du New York Times. Avec des effets contre-productifs, contraires aux promesses de campagne de Donald Trump, des prix à la consommation en hausse, des entreprises américaines qui vont souffrir. Donald Trump l'a d'ailleurs avoué hier, relève le Wall Street Journal. Le secteur automobile aux États-Unis pourrait par exemple subir une perte de 33 milliards de dollars à cause de ses droits de douane, estime le quotidien économique japonais Nikkei Asia. Et puis, ajoute le New York Times, si la situation économique se dégrade au Mexique, cela pourrait favoriser l'immigration vers les États-Unis, alors que c'est un cheval de bataille de Donald Trump. Le Mexique, lui, ne veut pas de confrontation, explique le quotidien La Jornada, alors que le pays dépend de son voisin du Nord pour 80% de ses exportations. En attendant les déflagrations de cette guerre commerciale, le Canada et la Chine vont contester devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ces nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump, explique le South China Morning Post. Et Pékin en profite pour s'ériger en héros du multilatéralisme, note le magazine américain The Diplomat, comme lors de la première présidence de Donald Trump.
Et pour finir, Catherine, quelques mots des Grammy Awards qui sont tenus cette nuit. C'est l'équivalent des Oscars de la musique.
Et je vous propose un gros plan ce matin sur Doechii, qui enchante depuis des mois la presse outre-Atlantique avec son album Alligator Bites Never Heal, élu meilleur album rap de l'année, comme se félicite dans sa ville natale le Tampa Bay Times en Floride. Doechii, 26 ans, arrive très tôt dans sa carrière à faire fusionner le hip-hop, le rap, le jazz, la soul, le rhythm and blues, le funk et l'électro-sensuel, s'enthousiasme le magazine Rolling Stone. Esthétique toujours pointue, ajoute le New York Times. La rappeuse a été ovationnée hier pour son titre Catfish. Performance aussi enlevée que maîtrisée au niveau du chant et de la chorégraphie, relève The Hollywood Reporter. Avec Catfish, Doechii montre sa dextérité étourdissante, note le magazine musical Rolling Stone. Et elle a terminé sa performance au Grammy hier avec le théâtral Denial is a River, déjà remarqué en concert sur la NPR, la radio publique américaine. Denial is a River, où Doechii évoque l'infidélité, la toxicomanie et la dépression qu'elle a réellement vécue, explique le magazine Rolling Stone. Les liens vers toutes ces chansons sont à retrouver à la page de la revue de presse internationale sur le site de France Culture. Si vous avez la moindre question sur cette chronique, une seule adresse pour nous écrire, fcrdpi@radiofrance.com.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.